Place Info.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Informés. Au programme ce soir, cette question, faut-il ou non imposer le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés? La question se pose avec de plus en plus d'insistance. Le Conseil d'État vient même d'être saisi. Alors est-ce la bonne mesure? Est-ce le bon moment? On verra dans un instant ce qu'en pensent nos invités. On reviendra aussi sur les Ségurs de la santé. Les accords avec le personnel hospitalier ont été signés tout à l'heure. Un moment historique, a dit le Premier ministre. Mais est-ce vraiment la fin de la crise? On se posera la question. On verra aussi ce qu'il faut attendre de l'intervention d'Emmanuel Macron. Demain, il renoue avec la tradition de l'interview du 14 juillet et beaucoup espèrent des précisions sur le plan de relance économique. Voilà pour les sujets. Je vous présente maintenant nos débatteurs. Saveria Rojec, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste politique, auteur notamment d'Impitoyable qui vient de paraître aux éditions Stock, ouvrage qui revient sur les élections municipales et la bataille de Paris. À vos côtés, Romain Mouton, bonsoir à vous.
Bonsoir
Céline. Fondateur
Céline.
De l'agence RM Conseil. Avec nous également Driss Ait Youssef, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en droit public et président de l'Institut Léonard de Vinci. Et à vos côtés, Monder Abdenader, bonsoir à vous, enseignant à Sciences Po et fondateur des Napoléons, qui est un réseau social et dédié aux acteurs de l'innovation. L'édition 2020, c'est dans quelques jours, le 16 juillet à Paris. On en dira un petit mot tout à l'heure. Bienvenue à tous les quatre, c'est parti pour une heure de débat sur France Info. Ils ont intitulé leur tribune « Masqués, mais en liberté ». Ce week-end, dans la presse, une quinzaine de médecins ont appelé à rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics, les lieux fermés. Même demande aujourd'hui de la part d'un collectif de victimes du coronavirus qui saisit même le Conseil d'État pour demander à l'exécutif d'agir au plus vite. Alors la question, évidemment, qui se pose ce soir, je vais vous la poser, faut-il ou non rendre le port du masque obligatoire? Qu'en pensez-vous, Saveria Rojec?
Alors, le Premier ministre Jean Castex nous dit que c'est effectivement à l'étude, notamment en ce qui concerne les lieux clos. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme, j'allais dire, de tâtonnement, d'atermoiement, effectivement, des autorités. Le discours n'est pas clair. Et résultat, je pense que les Français ne savent pas comment agir. Alors, les experts nous disent que le taux de circulation, effectivement, du virus, pour l'instant, est encore assez bas. Néanmoins, on voit aussi que le nombre de cas, le nombre d'infections, recommence à augmenter. On voit ce qui se passe en Mayenne. On voit aussi les rassemblements de jeunes, comme on a vu ce week-end à Nice, ou ce qui se passe en ce moment même dans la Nièvre. Donc tout ça, c'est inquiétant. Je pense que les Français ont besoin d'un discours clair. Et ce qu'on voit jusqu'à présent,
c'est
plutôt... On voit des atermoiements. Non, on n'a toujours pas de consignes claires. Et juste à noter, il y a une question... je pense, législative importante, c'est que nous ne sommes plus dans l'état d'urgence sanitaire. Donc, quelles que soient les mesures qui pourront être prises dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, concernant donc des mesures obligatoires, il faut aussi voir dans quelles mesures on pourra les appliquer, puisqu'il n'y a plus, j'allais dire, la latitude législative que donnait l'état d'urgence sanitaire au gouvernement pour les appliquer.
Je me tourne vers le spécialiste de droit public, c'est à vous que je vais poser la question. Driss Ait Youssef, est-ce qu'on a effectivement les moyens législatifs, comme le disait Saveria Rojec, d'imposer le port du masque obligatoire aujourd'hui?
Oui, oui, absolument. Là, on est plus du domaine du réglementaire où le Premier ministre peut parfaitement prendre un décret, comme ça a été le cas d'ailleurs pour permettre aux pharmacies de pratiquer des tests sérologiques rapidement. Donc c'est vraiment à la portée du gouvernement et du Premier ministre. La difficulté, c'est que on a un virus qui évolue. On en apprend, c'est vrai, tous les jours. Et la particularité aujourd'hui, ce sont des informations qui sont pas alarmantes, mais qui montrent qu'il y a une augmentation de la transmission de ce virus. On est passé ce taux qu'on appelle le de reproduction, de retransmission, le R, on est passé de 0,5 à peu près 1,05, c'est-à-dire qu'il se transmet de plus en plus. À côté de ça, on a quand même des données qui montrent que ce virus, il est aéroporté, donc il est en suspension dans l'air, ce qui fait que ça facilite la transmission au-delà des gestes barrières. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que dans les lieux publics, le Premier ministre réfléchisse effectivement à un port obligatoire. Donc on peut parfaitement le faire, il suffit d'avoir une volonté politique pour y aller.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique ? Ou trop d'atermoiement, pour reprendre le mot que vous utilisiez tout à l'heure?
Je ne trouve pas qu'il y ait d'atermoiement, mais c'est normal qu'on prépare l'opinion. C'est normal qu'on fasse... C'est des annonces qu'on est en train de nous faire. Et à l'évidence, on va passer par cette étape-là. On voit que les choses peuvent se mettre en place très facilement. Il faut compter sur la responsabilité des Français. Il y a un sujet en France dont on évoquera peut-être à l'occasion de la préparation du 14 juillet. Mais il faut faire en sorte que tout le monde s'émancipe aujourd'hui. Et sur ce sujet, comme beaucoup d'autres qui sont un peu plus ennuyeux, à New York, Cuomo a décidé, sans décret, sans rien, de faire en sorte que le masque soit porté, ou au Québec par exemple.
Mais est-ce qu'il faut recommander ou bien imposer ? Vous évoquez la responsabilité des Français, ça suffit peut-être de leur dire c'est nécessaire, Romain Mouton, vous en pensez quoi ?
À mon sens, il faut recommander et pas obliger. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de voir une nouvelle fois un grand discours et de grands discours liberticides s'instaurer avec toujours plus loin, toujours plus fort. Et là, c'est intéressant, le cas de Nice, par exemple. Parce que, alors, il y avait des images qui ont fait le buzz tout le week-end sur les réseaux sociaux. Alors, effectivement, donc là, maintenant, le maire de Nice a annoncé qu'on passait de l'interdiction de 5000 à 2500. Donc, demain, on va avoir une fête à 2500 personnes et on va encore réduire. Donc, c'est un cycle infernal, et c'est la même chose d'ailleurs pour les histoires de masques. C'est-à-dire que à chaque cas individuel ou à chaque buzz, on va adapter une politique publique. À mon sens, il y a deux piliers dans la lutte contre le Covid, c'est la responsabilité individuelle et les libertés, le respect des libertés individuelles. Et donc aujourd'hui, on a de toute façon toutes les consignes sur les gestes barrières. Appliquons les gestes barrières, continuons à effectivement, dans les lieux fermés, à porter le masque quand c'est nécessaire. Vous allez voir qu'on va réenclencher sinon un débat qui va brouiller l'esprit des Français, parce qu'en termes de communication, personne ne sera d'accord, soyez-en sûrs, même les plus grands scientifiques, personne ne sera d'accord.
Les libertés individuelles face au respect des gestes barrières. On va continuer le débat dans un instant. On va d'abord s'interrompre à 20h10 pour faire le point sur l'actualité de ce lundi soir. C'est le Fil Info avec Thomas Bénèche.
25 décès supplémentaires du Covid-19 en France, un chiffre communiqué il y a quelques minutes maintenant par la Direction Générale de la Santé. Contraindre le gouvernement à rendre obligatoire le port du masque dans les lieux privés et fermés accueillant du public, le Conseil d'État saisi à ce sujet en urgence par deux structures, l'association Victimes Coronavirus France et C19, un collectif de professionnels de santé. Pas de braderie de Lille cette année, elle devait avoir lieu les 5 et 6 septembre, l'événement annulé. Trop d'incertitudes sur la situation sanitaire à la rentrée, déclare conjointement préfecture et mairie. Les mots ce soir du chef de l'État adressés aux armées à la veille du 14 juillet. Nous fêterons cette cérémonie dans des conditions particulières qui vous priveront des applaudissements des Français. En raison de la situation sanitaire, pas de défilé militaire cette année, mais une cérémonie organisée demain, place de la Concorde. La tenue d'un procès pour meurtre à caractère antisémite ordonné par les juges en charge de l'affaire Mireille Knoll, du nom de cette octogénaire juive tuée en mars 2018 à Paris. Les deux suspects mis en cause dans cette affaire renvoyés devant les assises. Les 27 pays de l'Union européenne réunis en sommet vendredi et samedi. La chancelière allemande Angela Merkel, pas certaine à l'issue de ce rendez-vous d'un accord sur le plan de relance de l'économie européenne.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Céline Asselot.
Faut-il rendre le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés ? Le débat est lancé dans les informés de France Info. Décision qui a été prise ces derniers jours, on l'a vu en Croatie, au Québec, en Belgique. On en parlait. Est-ce que c'est une décision compréhensible aujourd'hui par les Français au moment où l'on permet certaines fêtes, au moment où l'on rouvre les stades ? Est-ce que c'est le bon moment pour se poser cette question ? Saveria Rojac.
Moi, je pense que oui. Oui. Je suis assez d'accord quand vous dites qu'il ne faut, on en parlait, on l'évoquait à l'instant, qu'il ne faut pas infantiliser les Français, qu'il faut faire confiance aux Français. Néanmoins, force est de constater, on le voit tous, dans les grandes villes françaises, dans les métropoles, il y a un réel relâchement des gestes barrières. Alors, on le voit dans les commerces, on le voit dans la vie quotidienne. Or, là où le port du masque est obligatoire, notamment les transports en commun, notamment les trains, on voit bien que les Français s'y plient sans aucun problème et que personne ne crie à une mesure liberticide parce qu'il faut porter un masque.
Mais
dans
pourquoi
un
ne pas l'avoir imposé justement en même temps?
Donc je
que
pense que là on est dans une
magasins,
zone un peu trouble et qui serait peut-être temps, d'autant qu'il y a des signes visiblement scientifiques qui inquiètent un peu les professionnels. Je pense qu'il serait temps d'avoir des consignes plus claires sur effectivement le port du masque obligatoire dans les lieux publics. On voit que les Français sont tout à fait prêts à s'y plier. Ils sont responsables à ce niveau-là.
Vous êtes d'accord?
Oui, d'autant plus qu'il y a quand même il faut aussi préparer la rentrée, c'est-à-dire que vous allez avoir un vaste plan de relance à la rentrée prochaine. Il ne faut pas que ce plan de relance soit entravé par à nouveau une circulation beaucoup plus importante de ce virus qui risque évidemment de fragiliser aussi les plus fragiles, c'est-à-dire les retraités et les personnes à risque. Par ailleurs, l'automne prochain, c'est le retour des autres coronavirus. Il y en a d'autres, le rhume, la grippe, et le rhume, la grippe. Et donc, on pourrait avoir à ce moment-là aussi quelque chose de beaucoup plus brouillé dans la détection et le suivi du Covid-19. Donc, ça pourrait être très compliqué. Donc, il y a une fenêtre de tir, juillet, août, septembre, qu'il faut saisir, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement prévoit effectivement ce port du masque. Par ailleurs, pour terminer, dans des lieux fermés, privés, le port du masque peut être obligatoire. Donc, vous allez dans certains centres commerciaux.
Ça peut être imposé par le propriétaire du lieu. Oui.
Voilà. Oui. Dans les lieux publics, c'est particulier. Il faut effectivement, on est dans le domaine de la loi, de la réglementation, et donc il faut le faire. Voilà.
Vous avez l'air tous d'accord, je vous opinez du chef. Pourquoi on le fait pas, tout simplement, Mondher Abdennader?
Je pense qu'on va y passer, on va le faire. Hein. C'est pas le sujet, c'est juste comment. Est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est basé sur la confiance qu'on fait à l'autre? Quand on dit à quelqu'un de protéger autrui, il peut ne pas le comprendre, mais je pense que on a à faire face, je suis d'accord avec Driss, à une rentrée, une relance, mais surtout une rentrée scolaire. Il y a 10 millions d'élèves qui risquent de ne plus retrouver le chemin de l'école dans le monde, je crois, si mes chiffres sont bons, de Save the Children, et que ces 10 millions d'élèves en France, égoïstement, si on prépare pas cette rentrée, si on fait pas en sorte d'avoir une France qui est un peu plus prête à vivre avec ce virus parce qu'on nous prévoit pas de vaccin de sitôt. Bon, il y a un pessimisme autour du vaccin aujourd'hui. Je trouve que c'est ça, des parents sont en capacité de le comprendre. Donc le port du masque arrivera et il y aura un engagement personnel de chacun à porter ce masque pour protéger nos vies et protéger justement notre parcours dans la cité et surtout celui de nos enfants.
Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, Romain Mouton, à prendre ce type de précaution, y compris pendant les vacances? C'est un moment où, allez, vacances, j'oublie tout. Est-ce qu'on oublie aussi la protection sanitaire?
En fait, on met tous les sujets et toutes les situations dans le même panier. Là, vous parlez des vacances, mais typiquement, quand on est dans la rue ou au parc ou etc., le geste barrière, c'est la distanciation sociale, c'est éternuer dans ses bras, etc. C'est pas forcément mettre un masque en plein air. Là, en termes de communication, encore, on reparle du retour du masque, mais le retour du masque, c'est dans les lieux fermés, uniquement quand on est exposé, etc. C'est pas le masque quand on marche dans la rue, quand on fait son footing, etc. Et à mon sens, nous n'avons plus les moyens d'un nouveau reconfinement. Et donc, du coup, il faut à tout prix éviter la reprise de cette maladie. Donc, la prise de conscience collective se fera parce que non-reconfinement oblige, chacun voudra sauver ses concitoyens.
Ça veut dire que c'est tout sauf le reconfinement? C'est un petit peu ça ce qui joue là?
Je pense que le Premier ministre a été extrêmement clair en disant qu'il n'y aura pas de reconfinement comme on l'a pu le voir au mois de mars, parce que ça aurait un effet absolument désastreux pour l'économie de notre pays, que par conséquent, il faut dès maintenant continuer à habituer. Par ailleurs, je rappelle que, et je comprends d'une certaine manière finalement la position du Premier ministre, qui consiste à dire peut-être qu'il faut resensibiliser, ou en tout cas sensibiliser davantage nos concitoyens à l'application des gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains, il n'y a pas que le masque, hein. Il y a se laver les mains, la distanciation sociale, parce qu'il n'y a pas finalement que dans les lieux fermés au public, enfin les lieux fermés, les lieux publics, c'est aussi dans votre ascenseur, lorsque vous prenez l'ascenseur pour rentrer chez vous, si vous ne mettez pas le masque, etc. Donc finalement, ça ne sert presque à rien d'obliger le port du masque dans un lieu public fermé si vous ne le mettez pas au quotidien lorsque vous prenez l'ascenseur dans d'autres lieux où là on peut pas vérifier si vous le portez ou pas. Donc c'est vraiment une sensibilisation au quotidien de nos concitoyens qui prime beaucoup plus que cette obligation de le porter.
Qui passe d'ailleurs par une image forte, hein, Jean Castex, avec son masque.
Absolument, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est que je trouve que néanmoins la pédagogie de ces mesures, elle reste très difficile à faire, et même pour les premières personnes qui sont là pour faire cette pédagogie. On l'a vu lors des passations de pouvoir la semaine dernière.
Beaucoup de masques, hein, lors des passations de pouvoir.
On a tous été surpris de voir les premières images également, vous avez raison, du gouvernement et de Jean Castex portant un masque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc on salue effectivement cette application des gestes barrières. Mais lors des passations de pouvoir, on a vu tous les ministres, tous les responsables, sans masque, s'embrasser, se ruer sur les buffets. Donc voilà, donc cette pédagogie-là, on voit à quel point elle est difficile elle-même à faire.
Oui, Romain Mouton.
Oui, nos élus ont clairement un rôle modèle. Et on l'a vu avec le buzz qu'a fait l'apparition de Trump avec un masque. Ça a fait la une de tous les réseaux sociaux, uniquement parce qu'il ne l'avait jamais porté avant. Donc aujourd'hui, nos élus ont un rôle modèle, mais pareil, en appelant à la responsabilité et en étant eux-mêmes en port de masque quand cela est nécessaire.
Mais quel modèle ? Parce qu'on disait, hein, c'est pas toujours à 100% le port du masque. Non ? C'est un peu compliqué aussi.
Je souriais à la citation de Trump et du masque, parce que pour moi c'est un contre-modèle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'exemplarité, elle passe, je suis d'accord avec Romain, par une transparence et une explication. Voilà, et je trouve que c'est tout à fait justifié de se dire que il y a une transmission par gouttelette, c'est ce que moi je comprends en tant que citoyen, et aussi une transmission aérienne. La donne a changé. Donc si la donne a changé, les gestes barrières doivent évoluer et le port du masque doit être imposé.
Donc il faut évoluer au fur et à mesure le dispositif, c'est ça, Richard Foutsef ?
Je pense qu'il y a des injonctions contradictoires pour les Français, c'est ça. Quand je parle d'atermoiement ou tâtonnement et qu'il y a un moment, il faut en sortir pour que, et que les Français se plieront à ce que disent les autorités.
Ah, bien sûr. Et les élus ont aussi besoin d'être accompagnés. Prenons par exemple les festivités du 14 juillet avec les feux d'artifice. Vous avez des ARS, enfin, les agences régionales de santé qui conseillent aux élus d'annuler ces festivités. Les élus, effectivement, même si c'est toujours une tradition hein, pour les collectivités avec en famille les feux, à observer les feux d'artifice. Bah là, ils ont pris un choix qui est courageux, qui est de dire bon bah voilà, on est obligé de reporter ou d'annuler ces festivités. Donc c'est la preuve que les élus ont aussi besoin d'être conseillés.
Il faut les rendre raisonnables aussi, les politiques, les élus locaux, c'est ça ce que vous dites.
En matière des dépenses publiques aussi, ouais, voilà.
Oui, vous êtes d'accord. Bon, eh ben, le masque en tout cas, on verra ce que ça donne dans les prochains jours. On va parler du Ségur de la Santé dans les prochaines minutes avec nos informés ce soir. On fait d'abord le point sur l'actualité, c'est le Fil Info à 20h20, c'est avec Thomas Bénèche.
C'est un événement populaire en France et il n'aura pas lieu. La braderie de Lille, initialement programmée les 5 et 6 septembre, annulée cette année. Décision de la préfecture et de la mairie. Trop d'incertitudes sur la situation sanitaire à la rentrée. Après un concert polémique le week-end passé à Nice, 5000 personnes présentes sans respect des distances de sécurité. La jauge bientôt abaissée pour les événements autorisés. Elle va passer à 2500 jusqu'au 15 août, annonce le maire de Nice après une rencontre avec le ministre de l'Intérieur. 25 décès supplémentaires du nouveau coronavirus. Virus en France depuis vendredi, chiffre de la Direction Générale de la Santé. Au total dans le pays et depuis le 1er mars, plus de 30 000 personnes emportées par la maladie. Rendre le port du masque obligatoire dans les lieux privés recevant du public, demande faite au gouvernement par l'association Victimes France Coronavirus et le collectif de professionnels de santé C19. À cet effet, le Conseil d'État saisit en urgence par ces deux structures. L'affaire avait suscité l'émoi à travers le pays. Il y aura un procès après la mort en mars 2018 à Paris de Mireille Knoll, octogénaire juive, tuée de 11 coups de couteau, son corps retrouvé partiellement brûlé. Les deux suspects renvoyés devant les assises pour meurtre à caractère antisémite. Inconnu de la police, un homme de 40 ans, arrêté mardi dernier à Sénac en Gironde, mis en examen et placé en détention provisoire. Il était l'une des 10 cibles prioritaires mondiales dans la lutte contre les réseaux pédopornographiques. Il administrait des sites sur le Darknet, l'internet clandestin.
France Info, et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Céline Asselot.
Et au cœur des informés ce soir, il y a ce Ségur de la Santé qui aboutit à un accord. Après 7 semaines de négociations avec le gouvernement, une majorité de syndicats, de personnels hospitaliers et de médecins ont signé des accords salariaux. Et écoutez, Jean Castex se félicite de ce qu'il nomme un moment historique.
Personne ne doit douter qu'il s'agit d'un moment historique pour notre système de santé. L'État, c'est-à-dire la nation, vient de dégager une enveloppe supérieure à 8 milliards d'euros à son système de santé, incarné par celles et ceux qui le font vivre au quotidien, à savoir, quelle que soit leur catégorie, quel que soit l'établissement ou le service dans lequel ils travaillent, tous les personnels. Cet effort historique se veut d'abord une reconnaissance considérable à l'égard de celles et ceux qui ont été, comme on dit, en première ligne.
Voilà, une reconnaissance considérable, un moment historique, nous dit donc le Premier ministre à l'annonce de la signature de ces accords. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que ce sont quand même un peu des grands mots ? Qu'en pensez-vous ? Romain Mouton.
Alors, historique, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est significatif. Plus de 8 milliards d'euros, c'est du cash dans la poche des soignants. Et clairement, en termes de lisibilité de l'action, parce que c'est un le sujet qui nous intéresse aussi. Et c'est très lisible et c'est du concret pour les soignants. Donc avec cet épisode, en plus de ça, ça a été co-signé par les syndicats. C'est sûr qu'ils étaient à moins 20%, ils sont à moins 10%.
Oui, 10%, c'est pas tout, mais c'est déjà ça.
En même temps, c'est le jeu. Un syndicaliste satisfait n'est plus un syndicaliste. Donc, c'est le jeu aussi. Donc, du cash, du concret pour les soignants à la veille du 14 juillet. Prenons aussi les bonnes nouvelles telles qu'elles sont. Alors, tout n'est pas parfait. Le Ségur n'aura pas réglé tous les problèmes du système de santé. Là, on s'est concentré sur l'argent à la fin du mois dans la poche des soignants. Et le résultat est visiblement significatif, donc saluons-le.
Est-ce que ça peut résorber la rupture assez nette qu'on a vue ces derniers mois entre l'exécutif et le personnel hospitalier ?
Ça peut en tout cas commencer à colmater, effectivement. On voit cette crise qui est une crise presque inhérente à ce monde des soignants. Moi, je pense qu'il faut également, effectivement, il faut saluer Olivier Véran qui a réussi aussi. Il faut savoir comment ça se passe. Il a tordu le bras de Bercy, il a réussi à faire ouvrir effectivement les cordons de la bourse de Bercy pour les sortir. C'est 8 milliards, il y a pas d'argent magique, faut aussi le répéter. Donc c'est effectivement une reconnaissance. Les professionnels nous disent que c'est une reconnaissance sans précédent. Effectivement, c'est malheureux qu'il en ait fallu une crise sanitaire avec une mobilisation inouïe de ces personnels hospitaliers pour en arriver là, alors que ça faisait plus d'un an que ces personnels étaient mobilisés pour effectivement améliorer leurs conditions de travail. Ensuite, vous avez raison, il faut souligner que ces accords ne concernent que les salaires, les rémunérations, ça ne concerne pas le nombre d'emplois, ça ne concerne pas les conditions de travail.
Qui doivent porter mais sur encore le financement, la gouvernance, etc.
Des sujets majeurs. Mmh. Les conditions de travail, il faut répéter ce qu'est la camisole administrative qui justement empêche effectivement ce monde de fonctionner correctement. Les emplois, pareil. Pardon, mais Olivier Véran, hier, a annoncé, il parle de 15 000 recrutements. C'est pas inscrit dans les textes qui ont été signés aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est un rattrapage qui a aussi pour objectif de, comme son nom l'indique, de repositionner peut-être le personnel soignant dans une moyenne. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous prenez l'infirmier, il est en dessous de la moyenne de l'OCDE. Voilà. Donc je pense qu'effectivement, c'est plutôt un bon rattrapage. La difficulté ensuite, ça va être d'avoir une vision globale sur notre système de santé. Vous l'avez dit très justement, ça ne concerne que la masse salariale. Est-ce qu'on a dedans les 15 000 emplois ? On ne le sait pas bien, tout ça n'est pas encore très clair. Par ailleurs, il y a aussi effectivement cette question liée à l'investissement, à l'organisation territoriale et la gouvernance qui devront faire l'objet de certain nombre d'annonces. Et dans le même temps, il faut aussi qu'il y ait des réformes. Parce qu'il faut aussi qu'il y ait des réformes. Le système de soins tel qu'on le connaît aujourd'hui, il va pas bien. Et donc, il y aura forcément aussi des efforts à faire de l'autre côté. Donc, on verra effectivement, dans un deuxième temps, ce qui va préfigurer cette nouvelle organisation territoriale de la santé. Je pense qu'elle est importante, parce que ce qui a aussi posé une difficulté, ce sont ces places de réanimation, comparativement à l'Allemagne, où qui a à peu près le même budget, mais avec beaucoup plus de lits de réanimation qu'en France. Donc, il va falloir aussi avoir une vraie réflexion là-dessus.
Moi, il y a un terme qui m'a marqué dans les propos du Premier ministre tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il parle de reconnaissance considérable. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, il n'y aurait pas eu le même résultat du Ségur de la Santé ?
Cette crise nous a obligés à reconsidérer les priorités pour nous-mêmes, pour notre pays, et surtout la vision du progrès que nous avions. Et moi, je trouve que c'est un acte fondateur, au-delà évidemment de l'importance humaine que ça revêt pour les principaux intéressés qu'il faut saluer. C'est quelque chose qui met au centre la santé. Et s'il n'y avait pas eu cette crise, pour exacerber, cristalliser ce sentiment du fait qu'on marchait sur la tête et que le progrès nous échappait. Et d'ailleurs, le terme de progrès n'était plus utilisé depuis très longtemps. Étienne Klein en parlerait mieux que moi. Mais c'est déterminant pour notre société que d'avoir ce type d'acte fondateur qui passe par les métiers de la santé.
C'est un acte fondateur qui intervient juste avant, d'ailleurs, l'hommage aux soignants du 14 juillet. On imagine qu'il y avait un petit peu une course contre la montre, là, qu'il fallait clore avant le jour J.
Avant le discours du chef de l'État, avant le discours de politique générale du Premier ministre dans quelques jours. Voilà, il y avait un certain nombre, effectivement, d'échéances. Mais encore une fois, certes, les chiffres sont importants. Je pense que l'annonce est forte. Les syndicats, d'ailleurs, le reçoivent et le perçoivent de cette façon. Mais ce n'est qu'une étape. Effectivement, le monde de l'hôpital, les chantiers sont tels
que ce n'est qu'une étape qui ne concerne qu'une rémunération. Vous évoquiez tout à l'heure un rattrapage, c'est encore un rattrapage qui ne fait que un infirmier français sera toujours payé 400 euros de moins qu'un infirmier allemand et 600 euros de moins qu'un infirmier espagnol. Ce sont ça les chiffres. Et qu'aujourd'hui en France, il y a 7500 postes d'infirmiers qui ne sont pas pourvus parce qu'un infirmier préfère aller travailler effectivement en Belgique ou en Espagne où il gagne en moyenne 500 euros de plus.
On clôt pas complètement le dossier, si je comprends bien.
Il n'est pas du tout clos et c'est pour ça que, à mon sens, il y aura probablement derrière une réforme, vraiment une mise au point de notre système de santé, parce que quand vous regardez cet accord, il y a une grosse partie sur les personnels soignants, les infirmiers, etc., et puis une petite partie sur les médecins, mais avec des conditions très strictes, c'est-à-dire que il faut travailler dans le public et pas dans le privé. Donc on voit bien qu'on va avoir peut-être, à la lumière des débats qu'on a eu, des relations aussi avec les laboratoires, on aura probablement des débats assez intenses de ce point de vue.
Bon, en tout cas, il y a les accords qui ont été signés ce soir, demain l'hommage aux soignants, l'interview du 14 juillet aussi du chef de l'État, on va en parler dans un instant, restez avec nous, tous les quatre, Driss Haït, Youssef, Robin Mouton, Monder Abdennader et Saverian Rojec, les informés, reviennent dans quelques minutes.
France Info Météo, avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous, maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
Tout de suite, les prévisions météo avec Sébastien Léas.
Une perturbation va aborder le pays par le nord-ouest. Les premières pluies feront leur apparition en cours de nuit le long de la Manche. Demain matin, la perturbation s'étendra sur la Bretagne, les pays de la Loire, la Normandie, l'ouest parisien et les Hauts-de-France. Les pluies seront généralement faibles et intermittentes, mais au nord de la Seine, les passages pluvieux seront plus réguliers. L'après-midi, la perturbation gagnera jusqu'en Lorraine, au centre-val de Loire et au Poitou. Des éclaircies arriveront à se dessiner près de la Manche. Sur le reste du pays, la journée de demain s'annonce nettement plus calme et ensoleillée. Sur les Alpes du Sud et la Corse, de nouvelles averses localement orageuses sont tout de même attendues l'après-midi et quelques averses pourront aussi se développer sur l'est des Pyrénées. Les températures seront en baisse, les maximales afficheront à peine 19 à 24 degrés sur un large quart nord-ouest, mais il fera encore 24 à 31 degrés sur le reste du pays, avec jusqu'à 33 degrés sur le Languedoc.
Vous écoutez France Info, il est 20h30. Avant de retrouver les informés, un point sur l'actualité de ce lundi soir, c'est avec Claire Briguet-Lamarre.
À l'hommage d'Emmanuel Macron aux militaires qui, exceptionnellement, ne seront pas sur le devant de la scène demain pendant le défilé. Un défilé raccourci, place de la Concorde. Les armées sauront céder la première place aux blouses blanches, vient de leur dire le chef de l'État depuis l'hôtel de Brienne. Réaction mesurée après la signature de l'accord de Ségur qui prévoit notamment 183 euros d'augmentation par mois pour les soignants. Nous étions sous-payés de 20%, là nous seront toujours sous-payés, mais de 10%, dénonce sur France Info le syndicat national des infirmiers professionnels. Les derniers chiffres du coronavirus en France, 25 décès ces dernières 24 heures. Le nombre de cas graves en réanimation est stable. Une situation épidémique qui conduit la mairie de Lille à annuler sa braderie prévue début septembre pour raisons sanitaires. Tandis qu'à Nice, les rassemblements ne pourront plus dépasser 2500 personnes au lieu de 5000 actuellement. Décision du maire Christian Estrosi après un concert qui a fait polémique samedi soir. Les fêtards coupent le son à Saint-Paris-le-Châtel où ils étaient près de 5000. Ils sont en train de quitter cette petite commune de la Nièvre. Un rassemblement non autorisé qui a suscité, là encore, des inquiétudes sanitaires. Ils veulent forcer l'État à rendre le masque obligatoire dans les lieux privés qui reçoivent du public. L'association Victimes Coronavirus et le collectif de professionnels de santé C19 saisissent le Conseil d'État en référé. C'est une procédure d'urgence. Il fait partie d'un réseau de pédopornographie internationale. Un Français de 40 ans mis en examen à Bordeaux. L'homme reconnaît avoir administré des sites sur le Darknet, la face cachée d'Internet. Il est également soupçonné de viol sur ses propres enfants. Une forte baisse du nombre de personnes tuées sur les routes pour le mois de juin, un peu plus de 29% par rapport à la même période l'an dernier. 20h32 sur France Info. La suite des informés avec Céline Asselot.
20h-21h, France Info, les informés, Céline Asselot.
Et ils sont toujours à mes côtés, les informés de France Info, ce soir, dans le studio, Saverian Rojec, journaliste politique. Je cite notamment « Impitoyable », votre ouvrage sur les élections municipales à Paris, paru aux éditions Stock. Monder Abdennader, enseignant à Sciences Po, fondateur des Napoléons, ce réseau social dédié aux acteurs de l'innovation. À vos côtés, Driss Haït Youssef, vous êtes docteur en droit public, président de l'Institut Léonard de Vinci, Romain Mouton, fondateur de l'agence RM Conseil. Et le débat se poursuit tout de suite sur France Info. Il va donc renouer avec une tradition qu'il avait lui-même abandonnée. Demain, à la mi-journée, Emmanuel Macron se livrera à l'exercice de l'interview du 14 juillet. Ce sera à suivre à partir de 13h sur France Info. Exercice traditionnel, mais exercice peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui prend une autre ampleur cette fois au vu de la situation sanitaire et économique. Est-ce qu'il a eu raison, le chef de l'État, de miser à nouveau sur cet exercice on ne peut plus protocolaire de l'interview? Saria Rojek.
Je pense que avec la nomination du gouvernement, avec le changement de gouvernement et la nomination de Jean Castex, effectivement, il y a une nécessité d'explication de texte, j'allais dire, de la part du chef de l'État. Une des lectures que je fais de cette nomination de ce nouveau gouvernement, c'est qu'Emmanuel Macron nous dit qu'il veut aller vers les Français, qu'il veut aller vers les territoires. Voilà. On nous dit aussi que Emmanuel Macron veut se réinventer, veut dessiner un nouveau chemin. Voilà, tout ça, c'est un vocabulaire. Je vous assure, c'est un vocabulaire qu'on
se réinventer dans un exercice comme l'interview du 14 juillet. Est-ce que c'est possible?
Le problème, c'est que Jean Castex, aujourd'hui, qui a sans doute énormément de qualités, il incarne pas la féminisation, il incarne pas la gauche, il n'incarne pas la jeunesse, qui sont tout ce que nous ont dit les Français, il y a à peine quelques jours, lors du second tour des élections municipales. Résultat, comme Jean Castex ne peut pas incarner ce tournant qu'on nous promet du quinquennat, il ne reste qu'une personne pour l'incarner, c'est le chef d'État, c'est Emmanuel Macron. Et c'est en ça, c'est ce qu'on attend demain, c'est effectivement Emmanuel Macron doit dessiner ce tournant, parce que jusqu'à présent, je ne pense pas que le gouvernement et le nouveau Premier ministre incarnent ce tournant aux yeux des Français.
Est-ce qu'il va se réinventer, Emmanuel Macron? Est-ce que c'est ça qu'on peut attendre demain?
Vous avez posé une bonne question, Céline. Est-ce qu'on peut faire différent sur ce 14 juillet? Alors, sur la forme, certainement pas, parce que les marges de manœuvre sont faibles, mais par contre, sur le fond, c'est une interview à un moment historique. On revient quand même en post-confinement, qui a été un moment historique pour toute l'humanité, pour les Français. Et donc là, le président de la République doit donner le cap de la fin de son quinquennat. C'est maintenant ou jamais, parce que un an avant les élections, il ne se passera plus rien, même si tout le monde dit qu'il va y avoir plein de choses et qu'il sera président jusqu'au bout. Ça va être très calme, en tout cas sur le front des mesures. Donc, moment clé du quinquennat, où il peut fixer le cap, où il a encore un an, où il peut faire encore des choses sur cette prochaine saison. Et donc, pour lui, moment clé, mais aussi à cheval entre deux périodes d'annonces, puisqu'on est sur juillet, où il peut faire des premières annonces sur la relance, j'imagine qu'on en parlera après.
Bien sûr.
Et septembre, où là, il y aura des annonces complémentaires jusqu'à la présentation du budget 2021.
D'évoquer le fond, d'évoquer justement ce qu'on peut attendre, de ce qu'on attend d'ailleurs, de ce plan de relance que peut-être Emmanuel Macron va dévoiler demain. Qu'est-ce qu'on peut dire de la forme? On avait le sentiment qu'il avait plutôt apprécié les grandes allocutions solennelles, les adresses aux Français. Là, il est sur un autre type d'exercice.
Là, il va être plutôt dans la concrétisation de ces dernières allocutions où il finissait toujours par dire « je saurai prendre ma part de mes responsabilités, je saurai me réinventer ». Là, on doit passer à autre chose, d'autant plus que si on fait un peu le bilan de cette année, on a quand même eu les gilets jaunes. Alors quand on parle des gilets jaunes et qu'on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'il s'est passé une vie. Là, il va falloir qu'effectivement il annonce, parce que le cap des 600 jours, mais quand on parle du cap, il faut qu'on parle d'un cap politique. C'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Macronie aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt du gaullisme social? C'est plutôt du gaullisme libéralisme? Et donc il doit pouvoir, d'ici à la fin de son quinquennat, dire ce qu'il entend faire, et puis puisse se projeter aussi. Est-ce qu'il entend, pourquoi pas, se présenter en 2022, etc. Donc son allocution, elle doit pouvoir clarifier qui est Emmanuel Macron et ce qu'il veut vraiment.
On va parler de 2022 demain? Non, pas encore. Non,
pas encore. Juste une remarque sur la temporalité. Oui. La séquence est logique. Remaniement. Il faut donner. Saveria disait qu'il n'y a peut-être pas une incarnation de ce que les Français veulent aujourd'hui. Et donc, le président est là pour le faire. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et surtout qu'il a été privé d'une temporalité plus longue à cause de la crise. Donc, c'est l'occasion pour lui à la fois de parler avec sur un ton plus long que la crise lui a imposé. Et puis surtout, de pouvoir évidemment donner une narration précise de ce gouvernement et du pourquoi. Donc ça va être déterminant pour lui. Et il va, j'espère, évidemment dresser une vision avant le discours de politique générale du Premier ministre. Donc ça arrive à point nommé ce 14 juillet, et je crois que ça, la motivation de ce discours vient de l'excellente de calibrage du calendrier qui lui est proposé.
C'est l'étape dans la narration présidentielle, vous êtes d'accord?
Un mot encore sur la forme, puisque vous nous interrogez sur la forme et le retour de cet exercice. Je pense aussi qu'Emmanuel Macron est meilleur dans la contradiction.
Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Parce que c'est pas un monologue, ça sera une interview.
Il est meilleur dans la contradiction, et je pense... tout simplement que lui et son entourage se sont rendus compte que les dernières interventions du chef de l'État, les dernières allocutions, qui étaient en plus dans des moments très particuliers pour les Français, très anxiogènes, et où il a fait ce qu'on connaît de lui, donc souvent des interventions plutôt lyriques, très imagées, n'étaient pas forcément ce dont les Français avaient besoin. Et le fait d'avoir des intervieweurs et des contradicteurs en face de lui, il sera sans doute plus dans le concret, et justement dans les mesures concrètes, et sans ça fonctionnera sans doute un peu mieux. Mais je pense que la forme a été décidée pour cette raison-là.
Vous êtes d'accord? Donc du coup, il attend qu'on lui pose des questions, qu'on le pousse un petit peu dans ses retranchements.
Ah mais je pense que c'est du Emmanuel Macron. Voilà. C'est-à-dire que d'être dans une forme de monologue pendant 10 minutes, dans un devoir qu'il maîtrise plutôt bien, qu'il lui réussit en disant « ne vous inquiétez pas, je serai là, c'est tout pour moi, c'est nos limites ». Là, on va être sur un sujet, et le départ du Premier ministre, alors pourquoi vous l'avez fait partir? Enfin, on sera sur des sujets vraiment sur des sujets de fond, et inévitablement la question du cap politique reviendra avec la mise en perspective au-delà de 2022. Je pense que c'est aussi salutaire, parce que les Français ont aussi besoin de comprendre ce qui les attend. Fini les formules de « on va tous mourir à la rentrée prochaine », parce que c'est ce qu'on entend. Donc il va falloir être dans une forme d'équilibre en disant « la rentrée va être très dure, mais voilà ce qu'on entend faire pour évidemment limiter la casse ».
Vous lui auriez conseillé ça, Romain Mouton, plutôt l'interview, la contradiction, que l'allocution solennelle?
Une chose est sûre, c'est que les intervieweurs vont permettre aux Français d'avoir le sentiment de poser eux aussi des questions, puisque c'est des visages familiers de radio et télé nationale. Et donc, du coup, demain, il y aura moins ce sentiment de discours fleuve qui tombe. Ce sera toujours le biais et le risque pour Emmanuel Macron, ce sera toujours de faire court, puisqu'on sait qu'il a ce prisme-là d'être un petit peu long dans ses interventions. Donc demain, réponse courte, question courte, rythmée. On attend avec impatience l'interview.
Ben voilà la feuille de route donc de l'interview présidentielle. On va parler du fond dans un instant. On s'interrompt le temps de faire le point sur l'actualité de ce lundi soir. C'est le Fil Info à 20h40. C'est avec Claire Briguet-Lamarre.
Il donne une indication du niveau de l'épidémie en France. Les derniers chiffres du coronavirus, 25 décès ces dernières 24 heures. Le nombre de patients soignés en réanimation reste stable. Deux collectifs veulent forcer l'État à rendre le masque obligatoire dans les lieux privés qui reçoivent du public. Ils saisissent le Conseil d'État en référé. C'est une procédure d'urgence. Pour limiter la propagation du virus à Nice, les rassemblements sont limités à 2500 personnes au lieu de 5000. Une décision prise par le maire après un conseil qui a suscité la polémique ce week-end. À Lille, la traditionnelle braderie est annulée. Elle devait se tenir début septembre. En Mayenne, où 7 clusters ont été identifiés, 1300 tests de dépistage menés aujourd'hui, au premier jour d'une vaste campagne de dépistage lancée dans tout le département. Emmanuel Macron chouchoute les militaires qui ne seront pas les vedettes du défilé du 14 juillet, exceptionnellement cette année. Ce sont donc les soignants qui sont à l'honneur. Des soignants dont une partie sera dans les tribunes, place de la Concorde, tandis qu'une autre partie sera, elle, dans la rue. 6 organisations syndicales appellent à une journée d'action. Elles considèrent que l'accord de Ségur est une imposture. Accord qui prévoit notamment une hausse de 183 euros par mois de salaire pour les soignants. Accord historique selon les mots de Jean Castex.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h. Les informés. Céline Asselot.
C'est donc un exercice traditionnel, mais qui va peut-être cette fois prendre une autre ampleur. Que faut-il attendre de l'interview présidentielle demain, en ce 14 juillet? À part des questions courtes, des réponses courtes et du concret, quel va être le mot-clé? Est-ce que ça va être santé, économie, écologie? Mondeur Abdennader, qu'est-ce que vous attendez, vous?
Je voulais rebondir sur la nécessité d'avoir un discours avec les citoyens, avec la société. Donc le président de la République avait amorcé ça pour les grands débats. Il y a eu évidemment tout ce qui était citoyen, les initiatives citoyennes qui ont été développées. Je crois que demain, ça va être le moment d'élargir cette capacité de donner voix au chapitre de plus en plus aux Français. Donc essayer un peu de déconfiner notre démocratie, après avoir déconfiné notre pays, en donnant la parole à des sachants, à des faiseurs, parce que le pays est peut-être un peu totalement saturé de tutologues ou de gens qui donnent ou de personnes qui enferment le débat politique, social, économique, etc. Donc il y a une volonté, je pense, d'ouverture qui va peut-être être beaucoup plus précise, et ça c'est très important pour la rentrée qui nous attend, qui va être une rentrée sociale assez compliquée pour les raisons qu'on connaît, économiques évidemment au premier chef.
En tout cas, ce que vous dites, c'est que on prépare la rentrée sociale demain, c'est vraiment ça, Xavier Yarojek.
On prépare la rentrée, on prépare l'avenir. Je pense que l'exécutif est convaincu et obnubilé par le fait que la crise, effectivement, va être majeure. Et je pense que, alors, ce que vous dites, ce sont des choses, c'est une analyse effectivement de l'état de notre société, de l'évolution de l'état de notre société. Je pense qu'Emmanuel Macron, demain, sera aussi dans ce qu'attendent les Français, c'est-à-dire des choses très concrètes, c'est-à-dire le plan de relance, les jeunes. Il y a 700 000 jeunes qui arrivent en septembre sur le marché du travail, donc des aides pour l'emploi des jeunes. Voilà, l'entourage du président a laissé fuiter quelques informations ces dernières heures. On sait que voilà, il y aura notamment des annonces, notamment sur l'emploi, l'aide à l'emploi des jeunes dans le plan de relance. Il y aura des annonces en faveur de l'écologie, avec sans doute des aides pour la rénovation des bâtiments. Il va évoquer également la relocalisation des industries. Donc tout ça, ce sont des points assez concrets dans un cadre, vous avez raison hein, de l'évoquer, qui est un cadre démocratique avec un rapport direct entre les citoyens et l'exécutif, qui doit sans doute évoluer. Mais néanmoins, je pense qu'il va rester dans les annonces concrètes, et c'est ce qu'attendent les Français, avec la perspective effectivement d'une rentrée sociale et économique très inquiétante.
C'est un programme chargé pour 600 jours quand
même. C'est ce qu'on m'a dit aujourd'hui en tout cas.
Romain Mouton.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que le prisme de toutes ces annonces soit la transition écologique et sociale, et que chaque annonce qui soit faite par le président de la République soit conditionnée au respect de règles de l'environnement, de la transition écologique et sociale. On est à un moment historique où le président doit prendre en compte ce qui s'est passé, certes aux élections municipales, mais également avec la Convention citoyenne et les propositions qu'il s'est engagé à reprendre. Donc ça va être intéressant de voir comment il fait, très concrètement, les 145-6 propositions, comment il va les mettre en œuvre, et surtout comment, sur chacune des mesures de la relance, sur chaque euro investi par l'État, par nos impôts, comment cet argent investi sera dans le cadre de cette transition écologique et sociale. On est à un moment historique où on peut mettre en place, notamment grâce aux entreprises, des mesures, grâce à une RSE systémique, la responsabilité sociétale des entreprises, qui va permettre de créer un nouveau modèle économique, un nouveau capitalisme. On en a beaucoup parlé. Bruno Le Maire a été au front sur ce sujet. Donc la question maintenant, c'est comment très concrètement on passe à l'action.
Vous le voyez aller sur le terrain de la transition écologique?
Oui, incontestablement. Enfin, ça paraît aujourd'hui inéluctable compte tenu de la situation. Il va devoir, c'est vrai, répondre à la fois à la préoccupation de nos concitoyens, c'est celle d'une inquiétude très forte, avec une rentrée qui va être très difficile. Il ne se passe pas peut-être une journée, une semaine, sans qu'on a un responsable gouvernemental qui donne des indicateurs, en tout cas des chiffres plutôt alarmants. Et dans le même temps, en tant que gouvernant doit pouvoir mettre en perspective, avec les enjeux qui sont les nôtres, les enjeux climatiques. Et ça, il ne peut pas y échapper. Parallèlement à ça, vous avez les autres sujets internationaux, des sujets européens, où le plan de relance, il ne peut pas se faire plan de relance national, mais bien un plan de relance européen. Comment il compte s'inscrire dans cette dynamique? On a des pays européens qui suivent, d'autres qui ne suivent pas du tout. Donc, quelle est finalement, lui, sa philosophie? Quelle Europe y voit? Et donc, ça va être des sujets sur lesquels il ne pourra pas passer au travers et qui va conditionner la suite. Encore une fois, je pense que si son jour, il serait illusoire de considérer que sur l'ensemble des sujets, on ne reconstruit pas un pays en 600 jours. Ça me paraît extrêmement compliqué, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Si on prend simplement, par exemple, la justice, on disait, le Jean Castex disait que la justice était sa priorité, remettre le système, l'administration pénitentiaire, la justice judiciaire un petit peu au centre de nos préoccupations, en tout cas au centre des priorités, ça prendra beaucoup plus de 10 ans. Donc on est vraiment sur des sujets, ce que, encore une fois, les Français attendent, c'est aussi un discours de clarté, de vérité, et puis avec une mise en perspective sérieuse.
Xavier Yarojek, vous vouliez réagir.
Oui, je pense aussi qu'il ne fera pas l'économie, enfin c'est ce qui est prévu, d'évoquer deux réformes qu'il considère comme très importantes et qu'il ne souhaite pas abandonner, qui sont la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Ce sont des sujets très sensibles, parce qu'on sait que à la fois les syndicats, mais également le patronat, sont opposés à ce qu'on remette sur la table un dossier qui est aussi incendiaire que la réforme des retraites. Alors, qui plus est dans un contexte social aussi difficile que s'annonce cette rentrée. Néanmoins, voilà, je pense qu'on aura des éclaircissements demain et que Emmanuel Macron tient à aller au bout d'une façon ou d'une autre. Ce ne sera sans doute pas la même réforme, mais ce sera un des sujets évoqués demain, la réforme des retraites.
Je voudrais revenir d'un mot sur l'écologie qu'on évoquait, parce que quand on regarde les déplacements, les premières prises de parole de Jean Castex, par exemple, on a parlé justice, on a parlé sécurité, on a parlé régalien, on n'a pas parlé beaucoup d'écologie. Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron va s'en saisir, peut-être demain, ou bien que ce n'est pas forcément la priorité? Comment vous voyez ça?
Je pense que le gouvernement, dans ce moment très très compact, effectivement, je suis d'accord avec vous, n'a pas pu prendre position sur tous les sujets qui sont les sujets de préoccupation des Français que ça va rien rappeler tout à l'heure. Donc l'écologie en fait partie et c'est vraiment quelque chose qui va que le président de la République ne pourra pas ignorer. De toute façon, c'est évident qu'il va en parler demain. Moi, je suis d'accord avec Romain Moutan quand il dit que toutes les initiatives aujourd'hui doivent être réfléchies à l'aune de l'écologie et de leur impact. Bon, il n'y a aucune raison pour que nous, entreprises, nous travaillions là-dessus tous les jours pour essayer de réduire nos impacts et créer de la valeur en étant respectueux de ces valeurs de l'humain et du vivant, et qu'il n'y ait pas une prise de position extrêmement forte. Et évidemment, un mouvement politique très fort, parce que le politique est important en France, comme dans beaucoup d'autres pays, pour nous encourager à cela. Donc, il faut qu'ils s'en saisissent. Ils s'en saisissent, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que depuis le remaniement, on n'a pas vu de discours fort sur ce sujet-là.
Mais est-ce qu'on peut être audible quand on parle de tout à la fois? Si on parle à la fois de relocalisation, d'aide à l'emploi des jeunes, d'écologie, de réforme des retraites, est-ce qu'on peut tout passer au sein de la même interview? Est-ce qu'on peut... voilà, tout faire entendre aux Français.
On pourra pas tout dire, mais les sujets que vous venez d'évoquer sont les réelles préoccupations actuelles des Français. Donc, je pense qu'il pourra pas en faire l'économie. Et je pense que Jean Castex, après-demain, dans son discours de politique générale, va encore plus développer cette feuille de route du gouvernement. Juste en une phrase, vous avez raison. Les Français, encore une fois, je reviens à ce vote parce que c'est la dernière fois où les Français se sont exprimés. Ils réclament une mue sociale et écologique. Et que cette mue sociale et écologique, elle n'est pas encore, je pense que le gouvernement que nous a présenté Emmanuel Macron ne traduit pas cette mue-là, et qui fait d'où les attentes pour la parole du chef de l'État demain.
Allez, on interrompt le débat des informés, le temps de faire le point sur l'actualité, puisqu'il est 20h50, le Fil Info, c'est avec Claire Briguet-Lamarre.
Les soignants à l'honneur du 14 juillet, défilé raccourci sur la place de la Concorde. Le chef de l'État s'est adressé longuement aux militaires tout à l'heure pour leur rendre honneur, leur expliquer qu'exceptionnellement donc, ils devront s'effacer derrière le personnel médical demain. Certains soignants seront dans la rue, journée de mobilisation à l'appel de 6 syndicats pour dénoncer ce qu'ils appellent l'imposture de l'accord de Ségur, signé cet après-midi, qui prévoit une hausse des salaires de 183 € par mois. Deux associations saisies le Conseil d'État en urgence pour obliger l'État à imposer à tous le port du masque dans les lieux privés qui reçoivent du public. La braderie de Lille est annulée pour cause de coronavirus, et à Nice, les rassemblements sont désormais limités à 2500 personnes au lieu de 5000. Décision de la mairie après un concert avec une foule qu'on a vu agglutiner ce week-end. Les fêtards lèvent le camp à Saint-Paris-le-Châtel, cette petite commune de la Nièvre où une rave party géante s'était installée sans autorisation depuis samedi soir. Près de 5000 personnes et beaucoup d'inquiétudes sanitaires. Ce drame en Haute-Savoie, un adolescent de 16 ans s'est noyé dans un lac à Sallanches. Il arrivait de région parisienne en colonie de vacances dans la station des saisies. Un taux de réussite en hausse de 4 points pour le brevet. 90,5% des candidats obtiennent leur diplôme cette année.
France Info. Et tout est plus clair.
20h-21h, les informés. Céline Asselot.
Il y aura donc demain cette interview présidentielle du 14 juillet, puis le discours de politique générale du Premier ministre sera le lendemain, le 15 juillet, deux dates clés donc de la semaine pour préparer cette rentrée sociale qu'on disait unanimement difficile. Est-ce qu'on va pouvoir tout dire? Est-ce qu'ils ne vont pas se contredire non plus? Ce serait sans doute pas l'idée, j'imagine. Driss Ait Youssef, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça va se s'équilibrer tout ça?
Non, je pense qu'il y aura différentes parties, on l'a dit, d'abord faire un retour sur cette situation sanitaire, indiquer également qu'on n'aura pas un retour progressif à la normale, parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, dans d'autres pays dans le monde, on voit bien qu'on n'aura pas des relations normales avec ces pays à court terme ou à moyen terme, donc ça prendra beaucoup de temps. Donc on demandera forcément aux Français d'avoir de la patience, puis après on sera beaucoup plus sur un sujet intérieur. Et sur le sujet intérieur, j'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très vrai, les premières sorties de Jean Castex, c'était la justice et c'était les questions de sécurité intérieure. Pourquoi ? Parce que sans ordre républicain, on ne construit rien de sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la base de tout. Et on voit bien, vous avez évoqué tout à l'heure, enfin, votre collègue évoquait dans leur rappel des informations, la rave party un peu sauvage. Vous avez 5000 personnes dans la Nièvre. Enfin, je veux dire, en termes de propagation du virus, c'est quand même un vrai désastre. Donc, on ne peut pas, à un moment donné, construire quelque chose de sérieux s'il n'y a pas le respect des règles élémentaires. Pourquoi ? Parce que sinon, c'est le retour un petit peu à l'état nature. Et on voit bien que depuis maintenant quelques mois, vous avez des collectifs qui se montent, Extinction Rébellion et d'autres, qui contestent finalement la légitimité de l'État, qui conteste l'autorité de l'État. Et ça, je trouve que c'est à la fois dangereux et compliqué pour ensuite mettre en œuvre des réformes qui sont des réformes de fond, notamment sur l'écologie et autres. Donc c'est vraiment un vrai sujet. Je pense que le président de la République aura cette lourde tâche demain de repréciser dans quel contexte, en tout cas dans quelle France, on doit pouvoir se retrouver pour construire quelque chose ensemble.
Donc pour vous, quand on voit Jean Castex faire des déplacements sur la thématique régalienne, finalement on est complémentaire avec les questions de relance économique ? C'est un peu ça ce que je comprends ? Ou en tout cas l'un ne va pas sans l'autre ?
On répond à une double attente des Français. La première, vous l'avez évoqué effectivement, pour l'ordre, la sécurité, le vivre ensemble, le mieux vivre ensemble. Et effectivement, les inquiétudes économiques. Je sais aussi que l'exécutif aujourd'hui, il est partagé entre deux choses. Il est tout à fait conscient, effectivement, des aspirations des Français, pour en revenir, les aspirations des Français en vue de la transition écologique, en vue le fait que cette reprise économique se fasse sous le prisme de la transition écologique. Mais je pense qu'ils ont aussi peur que les mesures qui pourraient être annoncées, les mesures notamment issues de la Convention citoyenne, encore faut-il savoir comment on va les appliquer, quelle va être leur transposition, mais ils ont peur que ces mesures, justement, gênent ou freinent cette reprise économique. Je pense qu'il y a vraiment ces deux philosophies, là, actuellement, au sommet de l'État, qui se combattent, qui essayent de coexister. Voilà, je pense que c'est une réelle inquiétude aujourd'hui.
Romain Mouton.
C'est justement une solution, les mesures de la relance verte. Ce qui est très intéressant, c'est le rapport de WWF qui est sorti cette semaine sur le fait qu'une relance verte permettrait la création de 1 million d'emplois d'ici 2022 et voire 2 millions d'ici 2030. Parce qu'aujourd'hui, on a des solutions clés en main pour une relance décarbonée en termes de mobilité douce, d'agriculture bio, de tourisme vert, de rénovation énergétique. Quand on voit le secteur du bâtiment, l'immobilier, tous ces chantiers qui ont été à l'arrêt et c'est des milliers d'emplois en moins. Donc il y a des solutions très concrètes qui sont portées par les entreprises, par la société civile, par les scientifiques. Et écoutons-les, prenons ces mesures qui sont très concrètes et pour une fois faisons le pari de cette relance verte. Ça ne veut pas dire de l'écologie punitive, ça ne veut pas dire des interdictions, ça ne veut pas dire empoisonner la vie des Français. Non, c'est au contraire choisir, faire le pari d'investir ce qui est bon pour les Français et bon pour la planète.
En tout cas, ça veut dire que, si je comprends les deux grands rendez-vous de cette semaine, on va tout savoir sur ce qui va se passer au cours des deux prochaines années. Non, vous dites non.
Non, juste un mot, excuse-moi mon dire, c'est qu'on a quand même le deux temps dans cette communication qui est le mois de septembre. À mon sens, Emmanuel Macron fera des premières annonces demain et il y aura d'autres annonces au mois de septembre.
C'est un teasing.
Notamment dans le cadre du projet de loi de finances.
Mondaire Abdennader, sur ce point.
On va pas tout traiter, je ne pense pas que le président, effectivement, moi je pense que il va y avoir des séquences très différentes. Je crois que le plus important, c'est de restaurer, en tout cas de bien clarifier le rôle de l'État et la manière dont on va vivre ensemble, effectivement, mais surtout de faire en sorte de donner une légitimité forte, de préciser une feuille de mission pour le gouvernement et de montrer qu'il y a des réponses extrêmement concrètes qui sont aussi très rapidement dans le champ de vision du président. Donc, allier ton court et ton long, pour l'instant, il a eu les difficultés à le faire pour des raisons de crise.
La légitimité ? C'est aussi ça.
Incontestablement, il va falloir qu'il repose effectivement la légitimité de l'État et puis la sienne aussi en tant que président de la République. On sent bien que les Français, encore une fois, sont inquiets, sur tous les sujets d'ailleurs. On a parlé du régalien, mais y compris aujourd'hui sur la question liée à la reconversion de nos industries, effectivement, pour être dans quelque chose de beaucoup plus environnementalement responsable, etc. Donc ça va demander des reconversions de bassins économiques extrêmement importants. Les Français sont inquiets par rapport à ça. Quand vous avez des gens qui ont toujours travaillé dans des bassins miniers, dans le Nord, dans des usines un petit peu lourdes, etc., on leur dit, bah demain, vous ferez pas ça, vous ferez autre chose, sans formation. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et les gens sont un petit peu inquiets. Et cette notion, évidemment, à une politique écologique, économiquement, enfin, viable, ça, pour eux, ça ne leur parle pas. On l'a vu dans le cadre du débat des Gilets jaunes, on a quand même des Français qui sont extrêmement éloignés de tous ces sujets-là. Nous, on apparaît comme des, j'ai pas envie de dire privilégiés parce que c'est pas vrai, mais comme étant des sachants par rapport à eux. Donc il va falloir qu'en tant que président de la République, qu'ils rassurent les Français sur la manière dont il va conduire cette politique à la rentrée prochaine.
D'un mot, Savannah Rojec,
très rapidement. Je ne pense pas, je suis pas d'accord avec vous, qu'Emmanuel Macron est un problème de légitimité. Je pense que c'est pas ce qui va se poser demain. Je pense que sa légitimité en tant que chef de l'État, elle est acquise et elle est assise. En revanche, je suis d'accord avec vous que trancher pour dire des mesures, il faut juste rappeler la taxe carbone, les 80 km/h, c'est ce qui avait été le ferment de la crise des Gilets jaunes. Donc, il n'est pas si facile que ça de faire des grandes annonces en vue de la transition écologique, qu'elles soient ensuite acceptées par l'ensemble des Français.
Et ben voilà, le débat pourrait se poursuivre. On va suivre en tout cas demain, à partir de 13h, l'interview présidentielle d'Emmanuel Macron. Ce sera à suivre évidemment, tout comme la cérémonie de la matinée en direct, bien sûr, sur France Info. Merci beaucoup à tous les quatre. Savannah Rojec, journaliste politique, Impitoyable, votre ouvrage paru aux éditions Stock. Romain Mouton, merci à vous, fondateur de l'agence RM Conseil. Un petit mot du forum.
On vous donne rendez-vous le 4 septembre pour le forum de Giverny, premier rendez-vous annuel de la RSE à Giverny au musée d'impressionnisme.
Et c'est noté, Driss Haït Youssef, merci à vous, docteur en droit public, président de l'Institut Léonard de Vinci. Vous aussi, vous avez un rendez-vous à nous donner, Monder Abdennader, fondateur des Napoléons. C'est
après
bientôt
le discours de politique générale, le 16 juillet, donc au stade de Roland-Garros, les Napoléons tiennent une édition de la Résistance pour parler souveraineté, dette, économie, avec Melinda Gates, avec Jean Jouzel pour l'environnement, avec Anne Hidalgo, alors avec Bertrand Piccard, voilà, et d'autres invités qui viendront échanger avec nous.
Et ce sera en partenariat,
avec France Info, qui couvre l'événement.
Merci beaucoup à tous les quatre pour avoir participé aux informés. Restez avec nous sur France Info.